sorti du sur ces cartes, donc je vous invite à prendre ces cartes. C'est notre premier culte cet après-midi. C'est donc une étape importante dans l'histoire de notre église, donc de l'église de la Garenne. Donc, pour marquer l'occasion, j'aimerais revenir sur une étape très importante dans l'histoire de l'église primitive. C'était une étape énorme et c'est une étape dont nous sommes les bénéficiaires. Car grâce à cette étape, l'évangile nous est parvenu. Nous qui ne sommes pas juifs. Les deux principaux personnages dans cette histoire sont l'apôtre Paul, Pierre, et puis Corneille, donc un centurion romain. Et cette rencontre entre ces deux hommes va se révéler révolutionnaire pour les deux. Et c'est le message de Pâques qui est au cœur de cette révolution. Donc, dans un premier temps, ce soir, nous allons voir que Dieu doit changer, doit profondément changer la perspective de Pierre. Et dans un deuxième temps, nous allons voir que cette rencontre va bouleverser la vie de Corneille. Et peut-être Dieu, ça se peut que Dieu veut bouleverser aussi notre perspective et notre vie d'église. On raconte avec ce changement de perspective. Dieu, d'abord, doit s'adresser à Pierre, à ses préjugés. Nous avons tous des préjugés. Bien sûr, nous pensons que nous n'en avons pas. Nous pensons que nous sommes des citoyens modernes, éclairés. Mais, force est de constater que nos préjugés sont bien là. Ils sont bien enracinés en nous. Je me souviens une des premières fois que j'avais rencontré un étranger. Je devais avoir à peu près 8-9 ans. Sur un camping dans l'ouest de la France. Et en fait, ce jeune qui a dû avoir 7 ans, 8 ans aussi, m'a demandé si j'étais anglais. Et donc j'ai dit oui, je suis anglais. Il m'a poussé par terre, donc sur un tas d'ortie. Je m'y attendais pas. J'étais naïf. Je ne sais pas si, d'où il venait ou. Aucune idée en fait. Ce que je viens de raconter, c'est presque anecdotique. Une histoire de gamin. Parce qu'en réalité, nos préjugés font beaucoup plus de mal que des orties. On s'en rend pas toujours compte, mais les préjugés nous divisent les uns des autres. Ils sont une expression de la haine. Et c'est vrai, c'est difficile de combattre les préjugés. Ils ne sont pas rationnels, ils sont basés sur la peur de l'autre, sur des mensonges. Votre CV n'est même pas lu parce que vous appelez Mohamed, vous vivez dans un quartier un peu chaud. Oui, le racisme est partout. Et si on est honnête, il n'est pas très loin de nous non plus. Peut-être que vous n'êtes pas prise au sérieux au travail parce que vous êtes une femme. Vous avez fait des études ? À la fac ou en école supérieure. Ah, vous n'avez pas fait des études, pardon. Et ça peut aller dans les deux sens. Ah, vos parents habitent dans le 16e. Ah ben, votre genre n'est pas le bienvenu chez nous. Les préjugés attisent la haine, ils incitent la méfiance. Et Dieu a dû travailler sur la force de Pierre. C'est un travail de longue haleine. Et Pierre est-il lent à comprendre. C'est difficile de surmonter les préjugés. Et Pierre en avait. Comme beaucoup de juifs au premier siècle, ils vivaient dans une culture qui prônait une espèce d'apartheid. Les juifs ne se mêlaient pas aux non-juifs. Cela ne se faisait pas. Au premier siècle, ils avaient une interprétation très très stricte de la loi juive, de la loi de Dieu. Ils disaient que tout contact entre juifs et non-juifs était hors de question. Ils ne pouvaient même pas manger ensemble. C'est un peu ce que Pierre a dit dans le passage qu'on a lu ensemble. Pour les non-juifs étaient considérés par les juifs comme des impurs, comme des intouchables. Et cela conduisait à la haine et à la méfiance mutuelle. Un soldat romain, c'était le pire des pires. Il faisait partie d'une armée d'occupation qui massacrait les juifs dès qu'il y avait le moindre soulèvement. Et Pierre avait grandi dans cette société. Une société profondément enracinée et préjugée. Il était un enfant de son temps et de sa culture, comme nous sommes aussi des enfants de notre temps et de notre culture, avec nos préjugés. Dieu a un rêve. Et c'est un rêve qui ressemble un peu au rêve de Martin Luther King, mais le rêve de Dieu dépasse le sien en ampleur et en splendeur. Revenez donc au texte, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Certes, Dieu avait choisi le peuple d'Israël, il était son bien précieux, mais depuis le début de la Bible, Dieu avait des nations en vue, tout le monde. La planète. Il avait annoncé à Abraham que par lui, il allait bénir toutes les familles de la terre. Il avait dit à Moïse qu'Israël, en vivant pour Dieu, allait démontrer aux nations toute la seigneurie de Dieu, toute la sagesse de Dieu. Un prophète, Ésaïe, avait prévu un jour quand un serviteur serait la lumière des nations, pour que le salut de Dieu parvienne à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le passage qui précède le passage qu'on vient de lire, Luc, l'historien, celui qui a écrit ce livre, lui raconte deux rêves. Donc un rêve que Pierre a eu et un autre rêve que Cornée a eu. Et ces deux rêves sont liés. Ça veut dire que Dieu a quelque chose d'important à dire. Et dans le premier rêve qu'il a donné à Cornée, le Romain, donc je cite... On l'a lu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. On voit maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. L'apôtre Pierre a eu un rêve aussi. Et dans son rêve, il a vu des animaux impurs. Il a entendu une voix qui lui disait « Lève-toi, abat et mange ». Et cela a amené Pierre à réfléchir. Si bien que plus tard, il a dit Dieu, et on l'a lu ensemble, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme celui qui est impur. Manifestement, Dieu veut que ces deux hommes se rencontrent. Mais pour que cela puisse se passer, Dieu doit démolir les préjugés de Pierre. Il a dû changer la perspective de Pierre. Il faut en effet que Pierre voit que l'évangile est vraiment pour tous, pas que pour les juifs. Bien qu'il y ait la fin de notre passage, donc au verset 45, c'est le dénouement. Au verset 25, les juifs chrétiens sont étonnés. Ils voient que Cornée et toute la maisonnée de Cornée reçoivent l'Esprit Saint. Donc ils se convertissent, ils deviennent chrétiens. Au verset 47, Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Ça fait écrit, bien sûr que non, il faut absolument qu'ils le reçoivent. Car Dieu n'a pas de favori. Dieu n'est pas partial, Dieu n'est pas raciste, n'est pas sexiste. Il ne raisonne pas en termes de classe sociale, en fonction du niveau des études, en termes de dénomination ecclésiale. On peut se poser la question, peut-être nous avons aussi des choses à apprendre à cet égard. Nous nous lançons dans un grand projet, dans un beau projet, un projet qui est beaucoup plus qu'un projet, parce qu'il s'agit de l'Église de Jésus-Christ, son corps, ici à la Garenne. On peut se poser la question, sommes-nous prêts annoncer l'évangile à tous sans distinction de race, d'arrière-plan, de personnalité, de moyens, de persuasion politique. Ça fait facile pour nous d'aller simplement vers les gens qui nous ressemblent. Et du coup, on exclurait en fait les gens qui sont différents de nous. Demandons à Dieu de nous aider à voir plus clair sur nos préjugés et à nous en débarrasser. Car on va voir, le message de la Pâque exige que nous annoncions le message de la Pâque à tous. C'est ce message qui a bouleversé la vie de Corneille. Donc Pierre et Corneille vont se rencontrer. Pierre va annoncer l'évangile à Corneille, le message de Dieu. Le même message que nous voulons annoncer aux gens qui habitent dans ces quartiers, à la Garenne, Bois-Colombes, Nanterre, Colombes, etc. Et ce message n'est pas pour nous qui croyons, c'est pour tous. Pourquoi ? On voit dans ce passage qu'il est pour tous parce que Jésus est le Seigneur de tous, le Roi de tous, et le Sauveur de tous ceux qui se confient en lui. Ce que nous avons ici dans ce passage, dans Actes 10, c'est la prédication de Pierre. C'est comme si Pierre était là avec nous ce soir. Et l'historien Luc nous livre un peu l'essentiel de son message, qui prêchait régulièrement. Et au cœur de son message se trouve la résurrection. Oui, Pierre est un témoin oculaire du Christ ressuscité. Il a vu vivant. Et Pierre nous explique que cette résurrection a des conséquences cosmiques. Pour Pierre, ce n'est pas du lui dire parce qu'il y était dès le début. Verset 35. Ici, Pierre fait appel à la mémoire commune. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, vous le savez. Pierre n'a pas besoin de convaincre son auditoire de l'existence de Jésus ou de son ministère parmi les Juifs. Tout le monde avait entendu parler de Jésus. Mais que Jésus soit connu n'est pas si surprenant. Jésus était un homme qui guérissait les malades, qui pouvait calmer la mer, faire taire le vent par sa simple parole. Voilà de quoi délier les langues, faire parler les gens. Qu'est-ce qu'ils ont eu ? Je suis sûr que TF1 et France 2 auraient rapporté son histoire. Mais Pierre a vu plus que des miracles. Verset 39. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Cet événement n'est pas un simple fait divers. Un homme est publiquement mis à mort, comme si toutes les caméras étaient braquées sur lui, radio-télévision palestine, Jérusalem bleue, la télé romaine, tout le monde y était. Tout le monde l'a vu crucifié. Personne ne peut le nier. Et puis, il ressuscite d'entre les morts. C'est du jamais vu. C'est hallucinant. Sauf que personne ne l'a halluciné parce que les hallucinations collectives n'existent pas. Beaucoup de gens l'ont vu. On lit ailleurs que jusqu'à 500 personnes l'ont vu. C'est comme si vous aviez assisté aux obsèques d'un ami et tout à coup, la semaine suivante, vous le voyez et vous mangez ensemble. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Et force est de constater que les disciples avaient du mal aussi à croire au début. Mais ils ont passé du temps avec Jésus, ils l'ont touché, ils l'ont vu manger et boire. Et Jésus, il masticait, il avalait, il avait même des dents. Il n'était pas un fantôme. Donc ce n'était pas un moment éphémère de folie. Ils ne l'ont pas imaginé. Pour Pierre, la résurrection, ce n'est pas quelque chose de symbolique, ce n'est pas une fable, mais c'est vraiment un fait historique, quelque chose qui s'est vraiment passé. Parce qu'il va passer le reste de sa vie à raconter cette histoire à qui veut bien écouter. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que cet événement si extraordinaire signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a justifié, il a réhabilité, il a acquitté Jésus en le ramenant de la mort. Au verset 39, nous lisons que Jésus a été pendu au bois. Luc a bien choisi, ou Pierre a bien choisi ce terme, parce que dans la tradition juive, et aussi dans le livre de Deutéronome, on le voit bien, être pendu au bois était synonyme de malédiction. Jésus était maudit par Dieu, c'est ce que nous avons vu aussi avant votre histoire. Jésus a été classé parmi les criminels. Que dit Dieu? Dieu dit non, 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 non. On l'a ressuscité d'entre les morts. Il dit, celui-là n'est pas un criminel. Et le verset 42 nous explique les conséquences de ce retournement de situation, cette justification, cette victoire acquise sur la mort. Verset 42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. C'est lui que Dieu a désigné comme juge, comme roi. Un roi, c'est quelqu'un qui règne et qui juge. Et juste avant, au verset 36, Pierre a déjà dit que Jésus est le Seigneur de tous. Ça veut dire que Dieu n'est pas partial, il ne raisonne pas en termes de riches et de pauvres, de noirs et de blancs. Il n'y a que deux catégories de personnes pour Dieu, des vivants et des morts. Ça nous concerne tous, sans exception de personne. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et c'est la résurrection qui le prouve. Comment? Je pense à l'arrière-plan de sa prédication se trouve deux psaumes. Et dans d'autres parties de ce livre, il a déjà cité par exemple le psaume 16. Donc il a cité lors de sa prédication à la Pentecôte. Et dans ce psaume, David, le roi, dans l'Ancien Testament, prévoit que le roi de Dieu, qui allait venir, ne verrait pas la décomposition dans sa tombe. En fait, qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts. Il a déjà prévu que Dieu allait ressusciter un roi. Et Dieu, en le faisant, en ressuscitant Jésus, déclare qu'il dit, voilà celui-là, il est mon roi, le roi du royaume. Un roi règne, il remet de l'ordre. Et il faut qu'il remette de l'ordre parce que, on sait tous, on a bien semé la pagaille dans ce monde. On a prié pour pas mal d'exemples. Mais souvent, cette pagaille vient aussi de notre cœur. C'est bien plus proche de nous que nous ne le pensons. Et Dieu a promis d'y remédier. Et nous le voyons dans ce psaume 2. Voici quelques versets de ce psaume 2. Dieu parle de ce roi, de ce que ce roi allait faire. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Jésus est vraiment Seigneur du monde entier. Et c'est pour ça que Corneille a besoin de savoir. Nous avons lu au verset 35, par exemple, que Corneille était un homme qui craignait Dieu et qui pratiquait la justice. Il n'empêche qu'il a besoin de savoir que Jésus est son Seigneur, son juge. Et tous ont besoin de savoir, sans distinction de race, d'arrière-plan, qu'il soit de bon citoyen ou qu'il soit soi-disant racaille. Mais ce psaume 2 nous dit que, oui, Jésus est notre roi, notre juge, mais il est également notre sauveur. Je cite le dernier verset. Heureux tous ceux qui trouvent en lui un abri, un refuge. Ce roi juge et sauve. C'est exactement ce que nous voyons aussi dans la prédication de Pierre. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La paix et le pardon se trouvent en le roi qui juge. Si nous sommes honnêtes, nous nous savons coupables devant Dieu. Nous n'avons pas atteint sa sainteté. Nous avons vécu comme il nous a demandé de vivre. On peut se poser la question, comment ce roi, celui qui a reçu tout ce pouvoir, comment est-ce qu'il va nous sauver? C'est parce que ce roi a déjà purgé la peine qui aurait dû être la nôtre. Nous le voyons au verset 39. Jésus a été pendu au bois. Il a porté cette malédiction que nos péchés méritaient. Parce que notre rébellion à l'égard de Dieu vaut la mort. Notre refus de l'obéir comme des enfants créés par lui de manière reconnaissante. Bah, tout ça, ça relève de la haute trahison. Et c'est Jésus qui a porté cette malédiction que nous aurions dû subir. Et ce salut est offert à tous ceux qui croient, tous ceux qui se confient en Jésus. Un criminel qui a déjà purgé sa peine, bah, il ne peut pas être condamné à une deuxième fois pour le même crime. C'est logique. Ça serait absurde de condamner quelqu'un qui a déjà été condamné et purgé sa peine. Jésus a... En fait, je reviens. Si ce prisonnier qui a déjà purgé sa peine, une fois qu'il l'a fait, il est libre, il peut s'en aller. Il n'est plus condamné. Et si nous nous fions à Jésus, à sa mort, à ce qu'il a fait pour nous à la croix, Dieu nous voit en Jésus. Il nous voit unis à lui, unis inséparablement de Jésus. Et Jésus a déjà purgé notre peine. Si nous nous accrochons à Jésus, si nous mettons notre confiance en lui, lorsque Dieu nous voit, quand le juge nous voit, il nous voit en Jésus qui a déjà purgé la peine. Il ne peut pas être condamné une deuxième fois. On est libre, on n'est plus condamné. Donc Jésus, ce roi qui juge, qui sauve, nous offre l'occasion, l'opportunité de recommencer à zéro avec Dieu, de recevoir le pardon, de connaître sa paix, de jouir d'une nouvelle relation avec Dieu. Une relation qui va durer jusqu'à dans l'éternité. Puisqu'on est en Jésus, qui a déjà purgé cette peine, Dieu nous accueille les bras grands ouverts avec son amour inconditionnel. C'est un message d'espoir, n'est-ce pas? Le message de Pâques nous ouvre la voie à connaître la paix du Seigneur et le pardon du juge. Ce qui m'amène à vous poser la question... que vous avez mis votre confiance en Jésus. Ça peut se faire par la prière, simplement, humblement. Ça peut en demandant à Dieu de vous pardonner en vertu de ce que Jésus a déjà fait à la croix. Et en lui demandant de vous aider à vivre par la suite selon les consignes du roi. Ça, c'est ce que Corneille a fait. Et ça a bouleversé sa vie. Ça, c'est une grande étape dans l'histoire de l'Église primitive. Grâce à cette étape, les païens, les non-juifs, ont pu entendre l'Évangile et accepter ce pardon et cette paix. Bien sûr, il a fallu que Pierre comprenne que le message de Pâques nous concerne tous. que nous soyons riches ou pauvres, smicards, imposables sur la fortune, black beurre blanc, diplômés, surdiplômés. Pierre ne voyait pas ça au début. Il était aveuglé. C'était ses préjugés qu'il avait aveuglé. Il avait besoin de voir clair. Il avait besoin de mettre de côté ses idées reçues. Qu'en est-il de nous? Nous commençons une nouvelle étape, une grande étape dans l'église de la Garenne. Et nous allons aussi mettre de côté nos préjugés pour parler à tous de manière impartiale. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te remercier de ce que nous pouvons venir devant toi, humblement, simplement, avec la confiance, parce que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous pouvons être sûrs d'être acceptés par toi, d'être acceptables à tes yeux, parce que tu nous vois en Jésus avec toute sa son obéissance, sa justice. Remercions qu'en lui nous avons le pardon et la paix. Prions Seigneur, je demande au Seigneur de nous aider à voir clair, comme Pierre, après son rêve. Aide-nous à être des gens qui annoncent ton message d'espoir de manière impartiale, de manière à offrir librement à tous ce message. Aide-nous à fais un travail sur nous, Seigneur, là où nous sommes toujours aveuglés par nos préjugés. Au nom de Jésus. Amen.
Après avoir fait cette méditation, après ce que nous avons entendu, après le rappel qui nous a été offert, le rappel de l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons que chanter. Le remercier, le louer par nos chants. Donc je vous invite à chanter le dernier chant de notre petite blanche, le loup pour nous, éternellement.